Content encore une autre fois d'être là ce matin, en cette fête des Patriotes. Alors, tout ceci est enregistré maintenant, à partir de maintenant, je pense, donc il faut faire attention à ce que l'on va se dire. Écoutez, ça fait quelques années que je suis pasteur, au moins une trentaine d'années, et il y a quelque chose qui peut vous paraître peut-être évident, mais qui, moi, me marque quand même, me surprend aussi. Je me suis rendu compte qu'au cours des années de pastorat, notre service envers Dieu et envers notre prochain, et même dans l'Église, est en lien direct avec notre conception de soi, avec notre identité. En d'autres termes, la manière dont je me considère, la manière dont je me vois, va avoir une incidence directe ou une implication directe dans la manière dont je vais servir l'Église et dans la manière dont je vais voir mon association d'Église, je vais me voir moi-même étant comme faire partie de l'Église. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Parfois, on se voit affaibli, faible, et on se dit, comment puis-je rendre service à Dieu? Parfois, on se voit très fort, ou même trop fort, et on se dit, voici comment je peux servir Dieu ou le Seigneur ou dans l'Église. Mais vraiment, c'est lié ensemble, le fait de dire, voici qui je suis, et en même temps, voici ce que je peux contribuer, voici quel service que je peux rendre. Avez-vous déjà remarqué ça? Il y a des matins où on se dit, je peux rien faire, parce qu'on se voit, on se sent comme pas très bien. Et d'autres matins, on se sent en super forme. On me semble qu'on changerait le monde, n'est-ce pas? On a comme cette tendance-là à se voir. Et c'est vraiment lié à notre identité. Il y a un philosophe qui s'appelle McIntyre, et il vend pas des pneus, ça a rien à voir avec les pneus, mais Monsieur McIntyre, qui est vraiment un philosophe qui s'intéresse à la morale et aux questions morales, et voici ce qu'il dit. Il dit, « Je ne peux répondre à la question « Que dois-je faire? » qu'en ayant tout d'abord répondu à la question de quelle histoire, au singulier, ou de quelle histoire, au pluriel, fais-je partie? » Autrement dit, je ne sais pas comment je peux répondre, m'impliquer, m'engager, servir, dans la mesure où je ne sais pas dans quelle histoire je suis inscrit. Autrement dit, dans quelle est mon histoire de vie, dans quel parcours je suis inscrit dans ma vie, pour savoir comment je peux contribuer, qu'est-ce que je peux faire. Et je pense que c'est vraiment... C'est un fait que tant qu'on ne sait pas c'est quoi notre place, il est difficile de dire comment puis-je répondre, qu'est-ce que je peux faire. Et dans cette remarque-là, donc on voit donc encore une fois le lien entre notre identité et ce que l'on peut faire ou ce que l'on voit que l'on pourrait faire. Et je suis convaincu que si je vous demandais, par exemple, qui êtes-vous, quelle est votre identité, pour savoir qu'est-ce que vous pourriez faire, je vais avoir besoin beaucoup plus que votre permis de conduire, beaucoup plus que votre carte de crédit, beaucoup plus même que votre nom. Si je veux vraiment vous connaître, je vais être obligé de m'asseoir. Ça va me faire plaisir. Je vais m'asseoir et vous allez me raconter qui vous êtes. Vous allez dire, je suis né à tel endroit, j'ai grandi dans telle famille, je suis allé à telle école, j'ai eu telle circonstance dans ma vie, tel événement. Et là, je vais finir par savoir qui vous êtes vraiment. Et vous allez vous dire qui vous êtes au moyen d'un récit ou au moyen d'une histoire. Un peu comme une histoire. Et là, vous allez peut-être dire, vous allez choisir des... Si vous demandez à brûle pour point comme ça, qui êtes-vous? Racontez-moi votre histoire de vie. Je suis sûr que dans votre tête, vous diriez, « Ah, ça, je vais le dire, mais ça, je le dirai pas. Ah, ça, je vais le dire. » Ça, je vais dire, mais ça, je ne le dirai pas. Et, mais finalement, je vais quand même savoir un peu quelle est votre identité et qui est-ce que vous êtes. Nous avons dans notre vie, à ce moment, on a comme ce rôle-là d'un conteur ou d'un raconteur. On dit qui on est à partir comme d'un récit, d'une histoire que l'on raconte. On met des épisodes, on enlève des épisodes, on configure notre vie de manière à ce que ça ait du sens, de manière à ce que ça soit cohérent, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'un autre... Un professeur qui s'appelle Monsieur Dan McAdams, qui est un professeur à Northwestern, et il enseigne la psychologie narrative. C'est intéressant ce qu'il dit. Il dit, nous cherchons à donner à nos expériences dispersées et souvent confuses un sens de cohérence en arrangeant des épisodes de nos vies. N'est-ce pas? Je pense qu'il s'est rendu compte en faisant plusieurs entrevues, plusieurs interviews, il a interviewé une centaine et des centaines de personnes. Il a remarqué qu'il y a deux catégories de récits que les gens disent sur eux-mêmes. Il y a une catégorie de récits qu'il appelle un récit de contamination ou un récit de rédemption. un récit de contamination, c'est que les choses commencent bien dans votre vie. Vous êtes né dans une famille assez normale. Qui est déjà né dans une famille assez normale, je ne sais pas. Mais assez normale, vous avez une éducation qui a été bien, vous avez trouvé un emploi, vous avez progressé dans l'échelle sociale, ça va assez bien. Et soudainement, vient un événement, arrive une circonstance, surgit un accident, vient surgir une maladie, et là, les choses commencent à aller de plus en plus mal. Et là, ce qui allait bien, de cet élément-là de contamination vient comme détruire, assombrir votre vie, votre parcours de vie. Il disait qu'il y a des gens, donc, qui se caractérisent, s'inscrivent plutôt dans un récit de contamination. D'autres disent, il y a plutôt des personnes qui s'inscrivent dans un récit de rédemption. Eux, c'est le contraire. Ça commence plutôt mal. Ça va plutôt, c'est plutôt difficile. Ils ont soit un handicap, soit une maladie chronique. Ils sont soit une famille dysfonctionnelle, ça nous ressemble, hein. Soit que ça allait pas très bien au travail, un nouveau patron qui arrive et qui nous embête. Et puis, à un moment donné, au contraire, cette personne-là, par certains événements, par certaines personnes qui interviennent, vont faire en sorte qu'ils vont s'en sortir. Ils vont pouvoir, je dirais, comme vivre une rédemption. Et à leur tour, ils vont pouvoir contribuer, ils vont pouvoir donner en retour les bienfaits qu'ils ont reçus. C'est ce qu'il appelle un récit de rédemption. Je connais pas votre vie, personnellement, en tout cas, pas d'intimement, ça c'est sûr. Mais une chose qui est certaine, c'est que si nous avons le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur, on peut dire que notre vie est inscrite dans un récit de rédemption. Le Seigneur fait en sorte qu'il a un grand plan de rédemption et notre vie, notre parcours de vie, quels que soient les événements que l'on vit, difficiles ou heureux, tout ça s'inscrit dans un parcours, je dirais, de rédemption, dans un récit de rédemption. Et il disait que, bien sûr, que les gens qui se rangeaient dans le récit de rédemption étaient plus des gens qui étaient en capacité ou en habilité à pouvoir justement contribuer à une cause, une bonne cause. Et je pense qu'on peut appliquer ça aussi, bien sûr, dans l'Église pour chacun d'entre nous. N'est-ce pas? Nous qui sommes, si vous êtes, si vous avez le Seigneur comme sauveur, eh bien, à ce moment-là, on peut dire qu'on est sur la bonne voie, on est sur la voie de la rédemption. Tout ça pour dire que si nous sommes dans ce parcours-là de rédemption, ça veut dire que nous sommes en préparation pour servir le Seigneur. Saviez-vous que nous sommes constamment en préparation pour servir le Seigneur? On est toujours en train de se faire préparer pour servir le Seigneur. Même si on sert le Seigneur, on se rend compte qu'on est en préparation constante et on grandit dans cette préparation-là. Vous allez dire, qu'est-ce que rendre service au Seigneur? Qu'est-ce que servir le Seigneur? Qu'est-ce que servir Dieu? D'abord, servir Dieu, c'est premièrement une question d'attitude. C'est vraiment une question d'attitude, une question de cœur, premièrement. On sert Dieu, premièrement, et avant tout, en adorant. C'est ce qu'on a fait ce matin. On a été créé pour le servir. Et servir Dieu, ce n'est pas un fardeau, parce que nous avons été créés pour ça. Si on le sert de la bonne manière, bien sûr. Mais d'abord, servir Dieu, c'est l'adorer. C'est d'abord être, se consacrer. C'est d'abord se donner soi-même, chacun d'entre nous. C'est d'abord ça. On était créé pour lui, pour le servir. C'est déjà la première grande forme de service qu'on peut dire, servir Dieu. La deuxième, c'est servir dans l'Église et à travers l'Église et par l'Église. Et ceci est très important parce que l'Église est le moyen et l'outil, qu'on pourrait dire, par lequel Dieu accomplit son plan de rédemption. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu accomplit son plan de rédemption pour le monde. C'est son moyen qu'il utilise. Église imparfaite, Église faillible, oui, bien sûr, mais c'est toujours ce moyen privilégié que Dieu a choisi pour pouvoir accomplir son plan de rédemption. Et servir, donc, c'est aussi servir dans l'Église et par l'Église. C'est aussi servir son prochain. C'est servir son prochain de façon spontanée. On voit quelqu'un qui est dans le besoin, un peu comme la parabole du bon samaritain. Quelqu'un est en, nous sommes en route et on retrouve quelqu'un qui est en difficulté. Et qu'est-ce qu'on fait? On rend service, tout simplement. Et ça aussi, c'est une forme à laquelle Dieu nous appelle. C'est servir aussi dans le monde, c'est-à-dire au quotidien, la semaine, dans notre travail, en ayant un bon comportement, un bon témoignage, en honorant Dieu avec les talents et les qualités, les compétences que Dieu nous a données, c'est aussi ça, servir Dieu. Donc, il y a différentes formes, mais j'aimerais pas prendre plus de temps sur les différentes formes de service. Ce que j'aimerais, sur quoi j'aimerais insister ce matin, c'est que Dieu est en train de nous préparer et nous prépare constamment pour le servir, que nous sommes en préparation. Et c'est pour ça que le titre de mon message, c'est « Nous sommes prêts ». Nous sommes prêts. C'est pour ça que ce matin, j'ai mis mes souliers de course, ok, puis j'ai mis ma petite veste plus sportive, bien que je ne sois pas très sportif. Mais ça a l'air bien quand même, hein, j'ai de l'air sportif, hein? C'est quand même, au moins j'ai l'air, mais je ne le suis pas vraiment, mais pas grave, je suis prêt quand même et nous sommes prêts. Et c'est ça l'idée, c'est que Dieu nous prépare à son service. Et vous savez que on est constamment en formation dans ce sens-là. Et chez nous, dans la famille, on a un dicton. On a un dicton qu'on répète assez souvent après soit un dimanche matin ou quand on rend un service quelconque. On dit « mission accomplie et ça continue ». Mission accomplie et ça continue. Et parfois, on le dit avec différents tons, différentes intonations. Des fois, on dit « Ouf, mission accomplie. Ouf, et ça continue. » Ou des fois, c'est « Mission accomplie! Wow! Et ça continue! » Ça dépend de qu'est-ce qu'on a vécu, OK? Mais quand même, c'est toujours la même affaire, c'est « Mission accomplie! Et ça continue! » Et c'est ça, le service dans le Seigneur, pour le Seigneur. Nous sommes constamment en préparation, nous sommes constamment prêts d'être prêts pour pouvoir le servir. J'aimerais qu'on regarde donc à partir d'un passage qu'on va voir dans Exode chapitre 2. Et donc, Dieu nous prépare à le servir de trois manières. On nous sommes prêts en réalité lorsque trois choses. Lorsqu'on apprécie la providence de Dieu dans notre vie. On va voir ce que ça signifie. Lorsque nous apprécions la providence de Dieu dans notre vie. Apprécier, ça veut dire estimer la valeur, voir la valeur de comment Dieu, la main invisible et invincible de Dieu, agit dans notre vie à travers les événements et à travers les personnes. On va voir que lorsque nous apprécions la providence de Dieu, nous sommes prêts à pouvoir le servir. On va voir que dans la vie, justement, de Moïse, comment ça s'est passé. Deuxième point, c'est lorsque j'apprends de mon péché. Et ça peut paraître paradoxal, mais nous sommes prêts lorsque nous avons appris et lorsque nous apprenons de notre péché. C'est grave. Je ne sais pas si vous savez, mais Moïse est un meurtrier. Moïse a tué quelqu'un. Il a été quand même employé par Dieu. Lorsque nous apprenons de notre péché, de nos erreurs et de nos échecs, lorsqu'on apprend de ça, nous sommes prêts pour pouvoir servir le Seigneur. Et le troisièmement, c'est je suis prêt ou nous sommes prêts lorsque j'adopte la perspective de Dieu, lorsque j'ai la vision de Dieu, lorsque je vois les choses selon l'angle de Dieu. Et on va voir que Moïse va apprendre ces choses. Mais avant de lire le chapitre 2 d'Exode, j'aimerais qu'on situe un peu le contexte. Et le contexte, on le découvre déjà à partir du chapitre 1, bien sûr, d'Exode. Et c'est quand même curieux que on comprend pas exactement pourquoi le peuple d'Israël se retrouve dans des moments d'affliction, des moments d'épreuve, des moments de difficulté, se retrouve en esclavage. Mais chose certaine, c'est qu'on voit au chapitre 1 que le peuple d'Israël, qui a répondu, qui est en fait la suite de la volonté de Dieu, et ça, la volonté de Dieu, elle est déjà exprimée dans le livre de la Genèse. Au chapitre 46, verset 4, nous lisons « Israël se mit en route ». Donc, Israël, c'est le peuple d'Israël et c'est aussi Jacob. Hein? « Israël se mit en route avec tout ce qu'il possédait. Lorsqu'il arriva à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac et Dieu s'adressa à lui dans une vision nocturne. Il l'appela « Jacob, Jacob ». « Oui, répondit-il, j'écoute. Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de te rendre en Égypte. J'y ferai de toi un grand peuple. Moi-même, je t'accompagnerai en Égypte. Et moi-même aussi, je te l'assure, je t'en ferai revenir. Et c'est Joseph qui te fermera les yeux. » On se rend compte que c'est donc la volonté de Dieu que le peuple d'Israël se retrouve en Égypte. On ne comprend pas tout pourquoi, mais on se rend compte qu'ils sont là. Ils sont pas là pour souffrir et être esclaves pendant 400 ans. C'est juste les 100 dernières années qui souffrent. Mais les autres premières années, le peuple de Dieu prospère. C'est marqué dans Exode chapitre 1. Ils prospèrent, ils deviennent grands, ils deviennent forts. À un point tel que Pharaon craint que le peuple devienne trop fort et que le peuple hébreu s'allie avec les ennemis de l'Égypte et puisse renverser le Pharaon. Et c'est pourquoi le pharaon commence à avoir peur et craindre le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Et ce qu'il fait, c'est qu'il commence à les affliger. Il commence à leur faire subir des afflictions, il leur donne ils deviennent esclaves. Il fait en sorte qu'ils aient des travaux durs pour rendre leur vie amère. Et non seulement ça, mais même ça, le peuple se multiplie et le peuple grandit et prospère. Et là, le pharaon va plus loin, un cran plus loin dans son désir d'éliminer le peuple d'Israël. Ce qu'il fait, c'est qu'il dit aux sages-femmes des Hébreux de tuer les bébés garçons. Et il dit aux sages-femmes, quand vous arriverez devant une femme hébreu et qu'elle va accoucher, si c'est un garçon, éliminez-la. C'est déjà un début de génocide. C'est vraiment grave. On est rendu là. Il veut éliminer. Et les sages-femmes qui croient en Dieu, qui craignent Dieu, qu'est-ce qu'elles font? Elles donnent une belle version, une belle excuse, qui est vraie, je pense. Elles disent, hey, les femmes hébreux sont très vigoureuses. Plus que les Égyptiennes, en fait. Et puis, quand on arrive, ben, ils ont déjà accouché. Fait que, on peut pas faire plus que ça. Et Dieu bénit, les sages-femmes. Et il fait en sorte qu'elles aient une famille. Et quand le pharaon voit ça, il dit, bien, à ce moment-là, je veux dire à tout mon peuple, pas juste aux sages-femmes, à tout mon peuple, s'il voit un garçon hébreu qu'il le jette dans le Nil et qu'il le noie. C'est dans ce contexte-là que Moïse voit le jour. C'est dans ce contexte-là que ses parents vont donner naissance à Moïse. Et donc, j'aimerais vous lire le texte qu'on retrouve dans Exode, et il n'apparaîtra pas à l'écran, mais je vais le lire pour vous. Donc, portez attention aux 10 premiers versets du chapitre 2 d'Exode. « Un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau. » Ah, ça, c'est les mamans. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant pas le cacher plus longtemps, elle prit pour lui une caisse de papyrus qu'elle enduisit de bitume et de poisse. Elle y mit l'enfant et la déposa parmi les joncs au bord du Nil. La sœur de l'enfant se posta à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille du pharaon descendit se baigner dans le Nil, tandis que ses servantes se promenaient au bord du Nil. Elle aperçut la caisse au milieu des joncs et envoya une de ses servantes la prendre. Elle l'ouvrit, donc c'est la fille du pharaon, elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. C'est beau, hein? Moi, je suis à chaque fois. Elle ouvre la caisse, puis c'était un petit garçon qui pleurait. Et puis la fille du pharaon, donc, va être touchée. Elle aperçut donc, et elle l'ouvrit, elle voit ça. Elle voulait l'épargner, mais elle dit, c'est un des enfants hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du pharaon, elle qui était cachée dans les joncs, il y avait comme un stratège, hein? De tout planifier. Elle dit, veux-tu que j'aille t'appeler une nourrice d'entre les femmes des Hébreux, afin qu'elle allaite cet enfant pour toi? Va, lui répondit la fille du pharaon. La jeune fille alla donc appeler la mère de l'enfant. Pas bête, hein? La fille du pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le pour moi, et je te donnerai ton salaire. Imaginez-vous, la mère de famille est même payée. Les mamans, mais il y a ça à être payée pour élever vos enfants. Elle est même payée. Et je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand l'enfant eut grandi, c'est un peu moins drôle, elle l'amena à la fille du pharaon. Et celle-ci, donc la fille du pharaon, le prit pour fils et l'appela du nom de Moïse, qui signifie tirer, car dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Je sais pas si vous voyez ici justement la providence de Dieu qui se manifeste, mais la providence, on voit déjà là que le nom de Dieu n'est pas mentionné. Intéressant, le nom de Dieu n'est mentionné aucunement dans ces 10 premiers versets-là. On voit juste des événements qui surgissent et des personnes qui interviennent. Et le nom de Dieu n'apparaît pas. Et c'est quand même pour nous montrer que justement, que derrière ces événements-là, Dieu quand même est agissant. Parce que c'est d'événements quand même providentiels, faut bien l'admettre. Et ce qui le lecteur, c'est que c'est parce que l'auteur présumé d'Exode, c'est Moïse. Donc Moïse insiste, il y a comme un projet de signification quand il écrit ces choses-là. Il veut nous faire comprendre que même si le nom de Dieu n'est pas là, Dieu agit quand même. Et n'est-ce pas extraordinaire que parfois, nous-mêmes, on dit, Dieu est-il absent de ma vie? Dieu est-il absent de mes circonstances? Où est Dieu? Et Moïse dit, je pourrais dire que mes parents ont vécu un peu comme la même chose, mais je dois vous dire qu'en réalité, la providence de Dieu se manifestait à travers les événements. Le nom de Dieu n'est pas mentionné, mais ce que Moïse veut que l'on fasse, l'auteur ce que l'on veut que l'on fasse, c'est que nous-mêmes, on prononce le nom de Dieu quand on lit ce passage-là. Que nous-mêmes, nous aussi, que lorsqu'on vit des événements qui nous semblent peut-être difficiles à comprendre ou semblent que Dieu est absent, qu'on puisse dire quand même Dieu est agissant. Le nom de Dieu n'est pas là et vraiment l'insistance est sur justement les circonstances qui sont orchestrées, qui sont agencées par la main invisible et invincible de Dieu. C'est un détail donc qui est là et comme Moïse a bien voulu. Ensuite, le nom des personnes n'est pas mentionné. C'est marqué un homme de Lévi, une femme de Lévi, les parents. Or, le nom de ses parents sont mentionnés au chapitre 6. Pourquoi ils sont pas mentionnés là? Parce qu'on veut juste signifier que Dieu fait intervenir des personnes. Les noms, pour l'instant, ne sont pas importants. Et le nom du père, c'est Amram. Et c'est sûr que le nom de la mère, Jochebed, disons que c'est peut-être mieux qu'il soit pas là tout de suite au début du chapitre, mais quand même, c'est le nom est pas là. Et le nom de la sœur de Moïse n'est pas mentionné non plus. Par contre, elle est très connue après, c'est Myriam. Et le nom du frère de Moïse n'est pas mentionné non plus. Il s'appelle Aaron. Pourtant, il est très présent après. Mais pourquoi fait-il ça? Parce que, justement, il veut juste montrer que Dieu intervient par des personnes. Et parfois, c'est pas le nom de la personne qui est si important, mais c'est le fait que derrière l'intervention de cette personne-là, c'est la main de Dieu qui est agissante. Et encore d'autres choses qu'on peut voir dans ce premier verset-là qui nous montre la providence de Dieu, c'est la vulnérabilité de Moïse. Moïse, est dans un moment de faiblesse. C'est intéressant, il écrit sur lui. Hein? Moi, peut-être que je n'écrirai pas ma naissance de cette manière-là, mais il a l'audace d'écrire sa naissance de cette manière-là. Et ce qu'il dit, c'est qu'il est vraiment vulnérable, qu'il est faible, qu'il est bébé, qu'il est mis comme dans une arche, hein, c'est le même mot arche comme l'arche de Noé. La caisse, c'est le même nom en hébreu que l'arche de Noé. Il est mis comme dans cette arche-là, dans cette caisse-là, et il y a tout contre lui, on peut dire, Moïse, à ce moment-là. Premièrement, il fait partie du peuple qui doit être éliminé. Deuxièmement, il y a le mauvais sexe parce que c'est un garçon. Troisièmement, il est mis sur le Nil, l'endroit où il doit périr. Tous les garçons doivent périr. Et quatrièmement, non la moindre chose pour montrer combien Dieu est quand même providentiel, il est entre les mains de la fille du Pharaon. Il se joue là un moment très critique où la fille du Pharaon pourrait dire, c'est un Hébreu, je le laisse tomber. Mais Dieu, dans sa providence, va utiliser la fille du Pharaon pour que Moïse soit sauvé. Puis Moïse le mentionne là. N'est-ce pas que dans notre vie, des fois, il faut réaliser combien Dieu intervient et nous prépare à son service au moyen des événements, au moyen des personnes qui interviennent dans notre vie. Et puis, si vous êtes ici ce matin, c'est à cause de la providence de Dieu, justement. Et le service, moi, je me rends compte que il y a des gens qui sont intervenus dans ma vie, il y a des circonstances que Dieu a orchestrées, que j'ai reconnues plus tard, qui fait en sorte que ça m'a permis d'être parfois à son service, juste au bon moment et juste de la bonne manière. Même le nom de Moïse, pour montrer combien il était vulnérable, vous savez, les noms dans la Bible changent souvent. Hein? Lorsque Dieu appelle quelqu'un, un homme ou une femme, il change son nom souvent au moment de l'appel, au moment où il l'appelle. Abraham va avoir le nom d'Abraham, Sarah va changer de nom. Céphas, l'apôtre Céphas va avoir le nom de Pierre, ainsi de suite. Mais Moïse change pas de nom. Moïse va toujours être celui qui est sauvé des eaux. Toujours celui qui est tiré des eaux. Et son nom va lui rappeler justement la providence de Dieu dans sa vie. Nous aimons penser que nous sommes autonomes. Nous aimons penser que nous sommes indépendants. Mais en réalité, nous sommes vulnérables. Et nous avons besoin de réaliser que si nous voulons entrer dans le service de Dieu, nous avons besoin de réaliser ça et que, justement, la providence de Dieu fait en sorte qu'on peut le faire. Peut-être que vous êtes au bout du rouleau, au contraire, que vous avez besoin de réaliser que Dieu a un plan de rédemption pour vous. Vous êtes inscrit dans ce plan de rédemption et Dieu vous prépare aussi à votre service. Comment résoudre la tension entre le fait de connaître le plan de Dieu, connaître les promesses de Dieu et vivre la situation présente? Comment résoudre le fait que ma situation présente parfois ne correspond pas au plan de Dieu, me semble-t-il, de ce que je comprends du plan de Dieu? Comment répondre au fait que ma circonstance présente ne semble pas faire écho aux promesses de Dieu? Comment répondre pour faire en sorte qu'on puisse colmater cette fissure, puis qu'on puisse en fait raccommoder un peu cette déchirure qui est là entre justement le plan de Dieu, les promesses de Dieu et ce que je vis présentement? C'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Mais c'est pas simplement connaître le plan de Dieu. C'est pas simplement connaître les promesses de Dieu. C'est de mettre notre foi dans la personne de Dieu. Et là, on entre dans une relation avec Dieu. Il y a une nécessité de rentrer en relation avec Dieu pour pouvoir vivre. Et c'est la foi qui met une cohérence dans notre vie. C'est la foi qui donne, j'appelle ça la cohérence de la foi, c'est la foi qui fait que ça donne du sens, qu'on a du sens dans notre vie. C'est la foi pas simplement dans le plan de Dieu, ni seulement dans les promesses de Dieu, parce que je peux vous rabâcher c'est quoi le plan de Dieu, je peux vous rabâcher, c'est que vous les répétez encore 100 fois, c'est quoi les promesses de Dieu, mais vous allez vivre encore cette brèche, vous allez avoir encore cette brèche-là en votre réalité présente, et ce qui est promis, et ce qui est le plan de Dieu, ce qui va colmater les choses, c'est vraiment la relation personnelle. Une relation personnelle, tel que ça va devenir une communion avec Dieu. Une communion avec Dieu. Et là, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les afflictions, quelles que soient les épreuves, vous allez pouvoir vivre. Et Dieu va vivre avec vous vos souffrances. Il va vous accompagner avec vos douleurs, vos souffrances. Moïse, donc, voit bien ici qu'il était vulnérable. Et les parents, on voit qu'ils ont pu, raccommoder les choses. Si on regarde justement dans Hébreux au chapitre 11, verset 23, ce verset, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Ils avaient vu que l'enfant était beau et ils ne craignirent pas les dires du roi. Donc, ils ont appliqué cette foi-là que je vous ai parlé tantôt, de colmater entre le plan de Dieu, les promesses de Dieu et leur situation présente. Ils doivent tuer leur fils, ils doivent éliminer leur fils, mais par la foi, ils le mettent dans cette caisse, dans cette arche. Et nous lisons aussi dans Actes 7, 20, qui est un autre passage parallèle à Exode 2, il dit « En ce temps-là, est né Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu, il a été élevé 3 mois dans la maison de son père, et quand il a été abandonné, la fille du Pharaon l'a recueilli et l'a élevé comme son fils. Moïse a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant dans ses paroles et dans ses œuvres. » Deuxième point que j'aimerais voir, c'est que Dieu te prépare à le servir malgré ton péché. Lorsque nous apprenons de notre péché, et j'aimerais qu'on lise cette section, ce segment-là des Écritures, il y a le verset 11 à 22. « En ces jours-là, Moïse, devenu grand, se rendit auprès de ses frères et vit leur corvée. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, l'un de ses frères. Il se tourna d'un côté et de l'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il abattit l'Égyptien et le cacha dans le sable. Comme il sortait le jour suivant, il vit 2 Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton compagnon? » Il répondit, « Qui t'a fait chef et juge sur nous? Vas-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et il se dit, « Ainsi la chose se sait. » Quand le Pharaon apprit ce qui s'était passé, il chercha à tuer Moïse. Moïse s'enfuit pour échapper au Pharaon et il vint s'installer en Madian. Il s'assit près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et remplir les auges pour faire boire le troupeau de leur père. Mais les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, les défendit et fit boire leur troupeau. Et quand elles furent de retour auprès de leur père, Réuel, Il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? » Elle répondit, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il a même puisé de l'eau pour nous et il a fait boire le troupeau, notre troupeau. » Il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi donc avez-vous laissé cet homme? Appelez-le, qu'il vienne manger ici. Hein? » Hey, les filles, wow, watch out, on est en région ici, c'est un beau gars. Hein? Qu'il vienne manger à la maison. Hein? J'ai cette fille, moi, là. Faut s'arranger avec ça. Et puis, donc, on se rend compte que, en fait, la chose se sait. Et Moïse, il va voir ses frères. Il est rendu adulte, il est rendu grand, il a 40 ans. Avis à ceux qui ont 40 ans et plus. Il a 40 ans et là, il voit un Égyptien qui frappe, hein, qui frappe un de ses frères qu'il appelle. Et là, on va voir que Moïse, avec ses qualités de justicier, ses qualités de vouloir rendre justice, il va frapper. Et je dirais que on voit là, chez Moïse, une catégorie de péchés que j'appelle des péchés de bonne volonté, entre guillemets. Des péchés de bonne volonté ou des péchés de bonnes intentions. Et je place l'expression, bien sûr, entre guillemets. Ce sont des péchés qui sont plus subtils et qui nous sont parfois difficiles à discerner. Quels en sont les motifs? Pourquoi nous croyons souvent, nous croyons à tort que notre volonté est toujours bonne et que nous avons toujours de bonnes intentions et qu'il nous suffit de bonnes intentions pour servir le Seigneur ou aider notre prochain? Mais en fait, nous ignorons que le péché est une expression souvent de notre autonomie, de notre insoumission à la volonté de Dieu, de notre indépendance. Et donc, je pense que Moïse doit apprendre de ça. Il doit apprendre de son péché. Il a tué quelqu'un quand même. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est peut-être une autre dimension plus théologique du péché, c'est que le péché, c'est la corruption d'un bien créé par Dieu. Dieu n'a pas créé le péché. On ne reçoit pas une caisse de péché par Federal Express ou UPS un bon lundi matin et qu'on ouvre la boîte et ce qu'on se met les mains dedans, on dit « Yeah, c'est ça le péché ». Non, le péché, c'est pas une substance. Le péché, c'est pas quelque chose qui est créé. Le péché, c'est une corruption d'un bien créé par Dieu. Et ceci nous aide à comprendre comment on peut apprendre de notre péché. Parce que, en fait, Moïse a un cœur de justicier. Il a des bonnes intentions, mais il utilise mal, en fait, ce qu'il a comme qualité. Et ça, on doit apprendre de ça. Notre problème consiste à mal utiliser les biens créés par Dieu. Et mal utiliser, dans le fond, par exemple, l'ambition. C'est bien d'avoir de l'ambition, mais si nous utilisons mal l'ambition, on peut pécher, on peut écraser les autres, hein, on peut réduire les autres à rien. Il est bien, il est légitime, et c'est un besoin légitime de vouloir aimer et être aimé, mais si on utilise mal ou si on répond mal à ce besoin légitime-là, on peut aussi pécher et mal faire. Donc, je dirais que ce n'est pas pour empêcher la gravité du péché, mais il faut réaliser que c'est une corruption d'un bien créé par Dieu. Que dans l'ordre des choses, le bien vient avant le mal. Que le mal est venu après le bien. Que Dieu a créé toute chose bien, selon Genèse 1, quand il dit que tout a été créé bien et tout est bon et vraiment bon, Genèse 1 et 2. Et donc ça nous aide à apprendre de notre péché, n'est-ce pas? Ça nous aide à apprendre. Le désir de justice de Dieu, on le voit, de rendre justice, Dieu va t'obliger de le préparer, va t'obliger de travailler. Moïse, il va être obligé de vivre une transformation spirituelle. Ce n'est pas tout de savoir des choses, c'est une autre aussi de pouvoir faire les choses que l'on sait avec un caractère qui convient au Seigneur. L'importance du caractère. Il y a une implication ici aussi que j'aimerais qu'on voit comment on peut apprendre du péché. Non seulement qu'on voit la nature du péché, non seulement le fait que ça doit toucher notre caractère, mais aussi qu'il y a une dynamique dans le service de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est un peu comme un artisan avec nous. Nous sommes à la fois un outil pour Dieu, un instrument pour Dieu, pour lui rendre service, et nous sommes en même temps son œuvre. Et ça, c'est important de réaliser que, en fait, Dieu travaille avec nous autant comme nous sommes un instrument, mais aussi nous sommes son œuvre. C'est un peu comme un forgeron qui prépare un outil pour pouvoir faire une œuvre, mais qui fabrique un outil avec tellement d'art, tellement de c'est tellement beau. J'ai déjà vu des outils, vous aimez les outils? Moi, j'aime les outils. Il y a des beaux outils. C'est sûr qu'il y a des outils qui sont pas très beaux, là, faits en plastique, puis faits en chaîne. Mais il y a des outils, des anciens outils. Des rabots, des verlops. OK, je m'en irai pas là-dedans. Mais tu dis, wow, quel bel outil. Il y a quelqu'un qui a fait cet outil-là. C'est quasiment c'est une œuvre, en fait. C'est déjà une œuvre, mais c'est un outil. Nous sommes ceux-là. Pas des verlops, là, pas trop, là. Faut pas trop verlopper le monde, mais nous sommes à la fois un instrument, un outil, mais en même temps, nous sommes l'œuvre de Dieu. Ce qui fait qu'il y a une transformation du caractère qui se fait à ce moment-là. J'aimerais tellement parfois rendre service ou avoir un service dans l'Église sans que ça passe par ma chair, mon cœur et mon être tout entier. Et le Seigneur travaille mon caractère, travaille mes combats, combat mes géants, travaille avec moi pour que je puisse le servir. On m'a dit de regarder au ciel si c'était trop long. Alors je regarde au ciel. En fait, il y a une horloge ici en haut. Je regarde vers le sommet des montagnes. On apprend de notre péché, donc, que je ne peux pas servir Dieu de manière autonome, de manière indépendante. Et que, en fait, je dois vivre une transformation spirituelle constante. N'est-ce pas que nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10? Vous connaissez ce passage dans Éphésiens chapitre 2? Verset 8, il dit, c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres pour que personne ne puisse faire le fier. Et voici ce qu'il dit, car nous sommes son ouvrage, nous sommes son œuvre, nous sommes son poème, même dans l'original. Nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes là à la fois donc l'œuvre de Dieu et en même temps l'instrument de Dieu et les deux vont ensemble. Et c'est de cette manière-là que parfois on apprend de notre péché. Et cela va nous amener à pouvoir servir le Seigneur. On va voir que Moïse, bien sûr, apprend. Il apprend il se retrouve donc dans le désert de Madian. Il va apprendre à devenir un berger pour pouvoir s'occuper du peuple de Dieu, n'est-ce pas? Vraiment un berger littéral, s'occuper du troupeau de son beau-père. Il va devenir un grand berger pour le peuple de Dieu. Il avait des bonnes intentions, Moïse. On le voit. On le voit, par exemple, dans Actes 7, 22. Moïse a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant dans ses paroles et dans ses œuvres. Il dit un peu, en quelque sorte, dans aussi Actes 7, 23, 25, il dit, lorsqu'il a eu 40 ans, révolu, la pensée lui est venue de visiter ses frères. La pensée lui est venue de visiter ses frères, les Israélites. Il en a vu un qu'on maltraitait, il a pris sa défense et il a fait justice à l'opprimé en frappant l'Égyptien. Ça c'est moins bon. Ses frères comprendraient, pensait-il, que Dieu leur donnait le salut par son entremise, mais ils ne l'ont pas compris. Spécial, hein? Moïse intervient, puis il pensait que ses frères comprendraient. Ça vous est déjà arrivé de faire une bonne chose, semble-t-il, pour quelqu'un ou dans l'Église, pour quelqu'un, vous dire, il me semble que c'est la bonne chose à faire, puis la personne ne comprend pas pantoute ce que vous êtes en train de faire. Au contraire, ça se réveille contre vous-même. et ça, Moïse avait vraiment cette pensée-là de faire la bonne chose, des bonnes intentions, mais il a appris de ça. Moïse, il a appris de ça. Il a appris. Et on se rend compte, donc, après avoir commis ce péché-là, ben, il prend la fuite, bien sûr. Il s'en va à Madian, très loin, là où le pharaon ne peut pas l'atteindre. Et il va être travaillé par le Seigneur à ce moment-là. Vous savez, quand on commet le péché, ben, c'est ça qui se fait, c'est qu'on fuit, on s'en va. Et Moïse a regardé à gauche et à droite, mais justement, il n'avait pas regardé, comme tous les prédicateurs disent, il n'avait pas regardé en haut. Il n'avait pas regardé à Dieu à ce moment-là. Mais Dieu pourvoit, Dieu l'envoie à Madian, il se marie, il a un enfant. Et c'est vraiment typique quand il nomme son enfant, il l'appelle Gershom. Gershom qui veut dire émigré. Il se sentait vraiment un étranger. Encore un étranger, cher Moïse. Et c'est lui qui nous enseigne au psaume 90, hein, verset 12. Il dit, enseigne-nous, c'est lui qui a écrit ce psaume-là, enseigne-nous à bien compter nos jours, que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Apprends-nous donc, apprends-nous, non seulement à compter nos jours, mais apprends-nous de notre péché, de nos fautes, et que ce n'est pas irrémédiable. Si tu as commis une faute grave, et que tu peux apprendre de ça. Tu peux apprendre de ça. Même un péché. On peut apprendre de notre péché. Moi, j'ai commis des péchés dans ma vie. Vous en doutez. J'ai commis des péchés dans ma vie dont j'ai appris la leçon. J'ai appris une leçon, là. J'ai appris que soit que j'avais des bonnes intentions, mais que je n'étais pas soumis à la volonté de Dieu. J'ai appris un peu ce que je viens de vous énumérer là. Et Moïse a appris de ces choses-là. Donc, dans ce sens-là, lorsqu'on apprend de notre péché, nous sommes prêts à le servir. Nous sommes prêts à continuer à le servir. Dernier point, l'heure avance. Lorsque nous adoptons la perspective de Dieu, et laissez-moi lire vous les derniers versets de ce chapitre 2. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, les Israélites gémissaient et criaient encore dans leur esclavage. Les appels au secours qu'ils lançaient dans leur esclavage montèrent vers Dieu. Dieu entendit leur soupir. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, et Dieu regarda les Israélites et il sut ou il connut. Quatre actions de Dieu qu'on voit là maintenant, et je pense que si nous voulons adopter la perspective de Dieu, je pense qu'on doit aussi adopter ces quatre actions que l'on voit de Dieu ici. Entendre, hein? Entendre, ensuite se souvenir, ensuite regarder, et ensuite savoir, d'un savoir spécial. Dieu entend les cris de son peuple, non pas parce qu'avant il était sourd, mais souvent cette expression-là veut dire que lorsque Dieu entend son peuple, ça veut dire qu'il est prêt à agir, il est prêt à intervenir. Dieu entend, et là il est prêt à intervenir. Et comme nous aussi, si on veut adopter la perspective de Dieu, combien on doit entendre le cri des gens, la souffrance des gens, la douleur des gens. Si on veut adopter la perspective de Dieu pour avoir un service qui ait une efficacité, on doit entendre. Et vous savez, on a souvent cette distinction-là entre aider quelqu'un et prendre soin de quelqu'un. Aider quelqu'un pour une infirmière, ça pourrait être « je vais baisser le lit de M. Tremblay pour qu'il puisse dormir ». Prendre soin de M. Tremblay, c'est de dire « M. Tremblay, est-ce que le lit est assez incliné ou il est assez avancé? Est-ce que c'est la bonne chose ?» Ça, c'est prendre soin. Aider, c'est une différence. Et je pense qu'il faut entendre les gens. Il faut entendre les gens. N'est-ce pas que notre service dans l'Église a de plus en plus besoin d'empathie et de sensibilité, même envers notre prochain. Et dans l'Église, encore plus. Sensibilité, empathie, entendre le cri des gens. Ensuite, se souvenir de son alliance. Dieu se souvient de son alliance, pas parce qu'il avait oublié non plus. C'est parce qu'il est prêt à agir aussi maintenant, selon son alliance. Le cri du peuple de Dieu, les douleurs du peuple de Dieu font écho à l'alliance qu'il a fait, à ses promesses. Et nous aussi, on doit se rendre compte qu'on doit faire en sorte que les gens se souviennent comment Dieu est intervenu dans leur vie. C'est pas simplement donner des versets de la Bible. Oui, c'est très bon, c'est important, c'est très important de donner des passages de la Bible, c'est très important. Mais en même temps, il faut que les gens, qu'on puisse amener les gens à ce qu'ils se souviennent comment Dieu est intervenu dans leur vie. Comment Dieu a fait alliance avec eux. Comment Dieu est intervenu. C'est ça, se souvenir. De quoi voulez-vous vous souvenir de Dieu? Quel souvenir avez-vous de Dieu? C'est pas en ouvrant la Bible que vous allez avoir un souvenir de Dieu. Oui, vous allez avoir un souvenir intellectuel de connaissance, mais je parle ici d'un autre souvenir, dans le sens que, oui, ça, je m'en souviens. En 1991, le Seigneur est intervenu, il est venu, il est intervenu. C'est dans ce sens-là qu'on doit adopter la perspective de Dieu, amener les gens à dire, te souviens-tu de ça? Te souviens-tu comment Dieu est intervenu? Te souviens-tu comment Dieu est bon dans ces moments-là? En faire en sorte que les gens se souviennent que Dieu a une alliance et qu'il maintient son alliance. Et qu'à ce moment-là, la personne dit, oui, c'est dans mon histoire, ça. Ça, c'est dans mon histoire. Ça, c'est dans mon récit. Ça, c'est vrai, ce que tu dis là, c'est vrai. Je m'en souviens. Et à ce moment-là, souvent, on rend service à la personne. On était en service à la personne. On adopte la perspective de Dieu. Ensuite, Dieu regarda et il a vu la situation. Moïse aussi a regardé et il a vu la situation de son peuple. Mais Dieu voit en profondeur et je pense qu'il faut des fois regarder un peu plus en profondeur pour pouvoir voir vraiment la situation des gens. Enfin, c'est savoir. C'est marqué Dieu, il sut, oui, il l'a su, il l'a connu. C'est le verbe en hébreu qui est vraiment un verbe d'intimité, une connaissance expérimentale. Que, par exemple, il est employé quand Adam connut Ève. Et c'est pas juste parce qu'il a appris son numéro de téléphone, hein. C'est vraiment intime. Et ça, c'est dans ce sens-là, c'est que nous, on doit savoir, on doit connaître, entrer dans une relation intime avec la personne pour pouvoir aider. Idéalement, nous sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Mais nous sommes appelés à adopter sa perspective. Peut-être y a-t-il un obstacle qui t'empêche d'adopter la perspective de Dieu. Peut-être est-ce que c'est un principe que toi, tu as personnellement, que tu as adopté, qui n'est pas un principe mauvais, mais qui doit être secondaire au fait d'adopter la perspective de Dieu. Peut-être que tu as des convictions aussi personnelles par rapport à l'Église, par rapport à l'association d'Église, par rapport à la manière dont les choses se passent, où le service devrait s'accomplir. Peut-être que tu as des convictions personnelles, mais en même temps, ça devrait être une conviction qui est secondaire. L'apôtre Paul a adopté la perspective de Dieu. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 9, ça apparaît pas à l'écran, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19, il dit « Car bien que je sois libre de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme quelqu'un qui est sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. » Et pourtant, moi-même, je ne suis pas sous la loi. Avec les sans-loi, comme un sans-loi, afin de gagner les sans-loi. Et pourtant, je ne suis pas un sans-loi pour Dieu. Je suis lié par la loi du Christ. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter. Vraiment spécial. Vraiment spécial. Moi, je suis pas rendu là, mais vraiment spécial. Que l'apôtre Paul pense de cette manière-là. Un homme tellement avec des convictions solides et profondes dit qu'il y a une perspective qu'il a adoptée, ce qui est celle de Dieu, qui est celle du cœur de Dieu, afin d'en gagner le plus grand nombre. Moïse adopte la perspective. Aussi, parce que nous lisons dans Hébreux chapitre 11, versets 24 et 26, et je termine avec ceci, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Nous lisons dans Hébreux 24, 26, Moïse a compris, je pense, a adopté la perspective de Dieu. Il dit ceci. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le péché. Car estimait-il subir l'humiliation que Christ devait connaître constituait une richesse bien plus supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. C'est intéressant de voir comment Moïse qui a péché, Moïse qui a tué quelqu'un, en vient maintenant à dire « voilà ». Voilà maintenant comment j'ai appris de mon péché. Et voilà ici comment j'ai. Je ne sais pas si vous connaissez les prix Nobel, le prix Nobel de la paix, le prix Nobel de la littérature, le prix Nobel de la science. Vous avez déjà entendu parler des prix Nobel. Et peut-être qu'on ne sait pas, mais on ne connaît peut-être pas l'origine, en fait, des... Hello! Good morning! Asseyez-vous, prenez place. La conclusion, le prix Nobel, c'est intéressant parce que on connaît peut-être pas l'origine, en fait, des prix Nobel. Et il y a Albert Nobel, c'est un inventeur. Il a en fait 350 brevets à son compte. Il a plusieurs inventions. C'est un chimiste brillant et il a fait fortune. Il a fait beaucoup d'argent. Albert Nobel, c'est donc un Suédois. Et il y a une anecdote quand même intéressante à noter ici. Il dit en 1888, une nécrologie, hein, la liste des morts, une nécrologie publiée prématurément par un journal français aurait annoncé, donc une nécrologie qui a annoncé prématurément, bon, il n'était pas mort, là. C'est marqué ceci, « Le marchand de la mort est mort. Le docteur Alfred Nobel, qui fit fortune en trouvant le moyen de tuer plus de personnes plus rapidement que jamais auparavant, est mort hier. » Et vous savez pourquoi il avait cette réputation-là de mort? C'est parce qu'il est l'inventeur de la dynamite. Il est l'inventeur de la dynamite, Albert Nobel. Et quand il est mort, les gens ont dit, « Enfin, lui est mort. Celui qui amenait la mort est mort. » Et savez-vous que c'est à partir de ce moment-là, cette anecdote-là, il était pas mort, Nobel? C'était une fausse annonce. Nobel a décidé de léguer presque l'entièreté de sa fortune, justement, à ce que des gens qui se démarquent pour des bonnes causes puissent avoir sa fortune. Et c'est de là que vient le prix Nobel de la paix et de... Pourquoi tout ça? Pour vous dire que il a voulu se racheter. Il a voulu que son nom soit inscrit dans un récit de rédemption. Nous, on n'a pas besoin de léguer une fortune. Nous sommes déjà inscrits dans un récit de rédemption. Et ce que nous avons à faire, c'est simplement dire, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à servir le Seigneur parce que nous sommes déjà, malgré les circonstances, malgré les épreuves, nous sommes inscrits dans un récit de rédemption. On va se lever et puis on va chanter ensemble ce dernier chant. Et puis après, je vais revenir pour la prière. Mais ce chant qu'on a chanté, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob, j'aimerais qu'on le chante avec comme une prière. Quand il dit, oh, j'ai besoin de toi, oh, j'ai tant besoin de toi. Hein? Et c'est notre prière. Donc, chantons ce chant.